Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Jean-Jacques Berdal, rédacteur en chef du Journal des Tribunaux, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir avec vous Isabelle Thomas, qui est avocate au barreau de Liège, lui, et juge de paix suppléante à Verviers. Isabelle Thomas, excellente membre du comité de rédaction du Journal des Tribunaux, a rédigé avec 9 co-auteurs un numéro spécial du Journal des Tribunaux qui est consacré à un centenaire, le centenaire de la loi du 7 avril, nous y sommes pratiquement 1922, autorisant les femmes à devenir avocates. Ce numéro spécial porte la date du 7 mai 2022 et il sera disponible aux abonnés du JT dans la foulée, ainsi que sur notre site internet larcier.com. Et au cours de cette émission, nous allons faire le point avec Isabelle sur les femmes et le barreau. Chère Isabelle, tu es la cheville ouvrière de ce numéro. Tu l'as imaginé, conçu et auteur d'un brillant éditorial, la loi du 7 avril 1922 autorisant les femmes à exercer la profession d'avocat. Un rappel toujours nécessaire. Comment ce numéro spécial de 28 pages a-t-il été conçu?
Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup, Georges, de m'accueillir dans ce podcast. Ce numéro a été effectivement très intéressant à construire et ça a vraiment été un honneur et un privilège pour moi d'en être la cheville ouvrière. Il est exact qu'au sein du comité de rédaction, on s'est rappelé il y a quelques mois que la date du 7 avril 2022 approchait à grands pas et qu'elle représentait un événement important puisqu'il s'agissait de célébrer le centenaire de cette fameuse loi du 7 avril 1922. Le numéro a été construit d'abord autour d'un article historique rédigé par Jérôme de Brouwer et son équipe d'historiens, et qui retrace finalement la manière dont cette loi a été discutée, a été votée, puis promulguée. Et on voit que ça a été un parcours du combattant assez laborieux. Ensuite, nous avons des contributions très intéressantes de Jean-Paul Masson qui revient sur la notion même de discrimination et qui nous revient aussi plus tard dans le numéro sur la figure de la femme avocate dans la littérature. Et c'est vraiment très très coquignolesque, donc c'est très 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 agréable et très drôle à lire. Nous avons également une contribution de Sybille Joé, qui est avocate au barreau de Liège-Huy et avec qui nous faisons partie de la commission genre du barreau de Liège. Et elle a porté un article très engagé où elle explique sur les enjeux finalement de l'égalité des genres, principalement au sein de l'ordre judiciaire et plus particulièrement au sein des barreaux. Et elle termine en évoquant les chantiers, les travaux proposés aux ordres et à avocat.be. Nous avons également le pendant de l'article de Jean-Paul Masson, mais version cinéma alors, qui est écrit par François Collomb sur la figure de la femme avocate au cinéma, sans oublier les contributions de Bernard Van Rippingen sur Gisèle Halimi. Je pense que c'est une figure incontournable lorsqu'on parle de femme avocate et de femme avocate engagée. Et dans la même lignée, nous avons le compte-rendu d'une exposition qui a lieu en ce moment au sein de l'UCL. C'est un article de Bénédicte Ingels sur des portraits de femmes engagées pour les droits humains. Et j'allais l'oublier, mais je le mentionne également, puisque je pense que ce podcast me donnera l'occasion de parler des commissions genre ou diversité ou égalité qui se créent petit à petit au sein des ordres. Eh bien, Stéphanie Davidson nous fait le compte-rendu de la soirée, de la réunion inaugurale de la commission diversité et inclusion au barreau de Bruxelles qui s'est tenue le 18 mars dernier.
Voilà donc un panorama tout à fait complet qui vous montre l'intérêt de ces 28 pages. Alors, il est impossible de tout passer en revue ici, nous employer un aspect ou l'autre sous forme de questions. Il y a tout d'abord l'article de nos historiens le groupe qui est sous la houlette de Jérôme de Broer réunit des historiens de l'ULB et de l'UC Louvain et qui est intitulé « Le temps des pionnières », le 7 avril 1922, l'ouverture du barreau aux premières avocates. Alors là, il est assez paradoxal que si je demande le nom d'une figure historique de l'arrivée des femmes au barreau, tout le monde va parler de Marie Popelin, qui a justement connu l'infortune de ne pas y être arrivée à la suite des célèbres arrêts que l'on connaît. Eh bien, 30 ans plus tard, ce sont les deux premières bénéficiaires qui avaient un diplôme de docteur en droit et qui ont pu prêter serment au barreau, c'est Paul Lamy et Marcel Ranson. Il est absolument extraordinaire lorsqu'on lit le détail des discussions parlementaires, des difficultés, les noms des hommes politiques, tout ça est repris dans le détail et on aperçoit tout de même, quand on lit ça, une série de perles extraordinaires dont on se demande comment des gens intelligents ont pu les prospérer. N'est-ce pas, Isabelle ?
Oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très interpellant. Et comme tu le rappelles très pertinemment, le premier nom qui vient en tête, c'est certainement celui de Marie Popelin. Or, elle n'a jamais pu accéder au barreau, mais pour autant, on la considère comme à l'initiative. Enfin, en tout cas, son cas malheureux est sans doute à l'initiative de cette loi. Encore que finalement, cette loi finit par passer 34 ans après qu'elle ait voulu prêter serment. Donc on voit quand même la faille temporelle qui existe entre ces deux événements. Et personnellement, ce qui m'a marqué dans cet article de Jérôme, c'est de voir qu'en effet, il y a une première proposition de loi en 1901. Donc c'est 21 ans avant l'adoption du texte dont nous discutons. C'est une proposition de loi qui est inspirée par l'exemple français, hein, puisque en France, les femmes sont admises au barreau dès 1900. Et ce qui est assez incroyable et remarquable, c'est de voir qu'on a cette proposition de loi en 1901, qui est examinée en 1908 et qui est finalement rejetée en 1912. Donc, c'est un parcours législatif quand même extrêmement long. Il y a dans la foulée une deuxième proposition de loi en 1913, mais qui ne va pas aboutir eu égard au contexte de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, la fameuse loi de 1922, elle trouve ses prémices à nouveau dans une proposition de loi de 1920. Donc cet étalement dans le temps est véritablement notable et je pense que on ne se rend pas compte un siècle plus tard de cette lutte et de ce que ça a nécessité comme investissement.
Sans compter, mais ça n'est pas directement notre sujet, qu'il a fallu attendre 1948 pour qu'il y ait des femmes magistrats. Il est impossible de revenir ici sur l'article de Sybille Joy qui est intitulé « Pour l'égalité des genres au barreau » qui est du plus grand intérêt car c'est un texte à la fois militant mais extrêmement documenté que nos lecteurs liront avec le plus grand intérêt. Il y a plusieurs aspects dans la chronique. Il y a la question de langue et la question classique du mot « avocate », mais ça, le mot « avocate », ainsi que Radamante nous l'explique, existe depuis le Moyen-Âge. Encore qu'à l'époque, c'était souvent l'épouse d'un avocat, mais enfin bon, le mot existe. Et alors, confrère ou consoeur, tout le monde connaît ces débats, il y a un point tout à fait complet qui est fait sur la question. Le cinéma a été évoqué par François Colomb. Alors là, c'est très intéressant à voir. C'est le cinéma américain dont il parle, parce que pour lui, le drame judiciaire a fait florès dans le cinéma hollywoodien plus que dans d'autres, et donc il a dû limiter son sujet. Figure de Gisèle Halimi aussi. Je crois que s'il y a deux réflexions que nous pouvons faire à ce stade, sauf bien entendu inviter nos auditeurs à lire ce journal, avec l'éditorial qui sera mis en lecture ouverte sur le site du Journal des Tribunaux, c'est les mesures et les initiatives qui sont prises actuellement pour que ce que les femmes vivent quotidiennement dans la pratique du métier, ce qu'il y a de négatif dans cet aspect, soit rencontré. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot maintenant ?
Oui, tout à fait. Je pense que on peut se réjouir que un siècle plus tard, les femmes soient représentées en force au sein de nos barreaux, puisque je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais à mon avis, on est même sans doute plus que 50% au sein des différents barreaux. Mais ces chiffres ne veulent, à mon sens, rien dire s'il n'y a pas une analyse derrière. Et notamment, ce qui serait intéressant de faire, c'est un cadastre, un état des lieux plus complet de la situation pour savoir quelles sont les tranches d'âge dans lesquelles ces femmes sont les plus représentées. Et à mon avis, on aboutirait à la conclusion qu'elles sont représentées dans les tranches d'âge les plus jeunes et qu'au fur et à mesure où on monte dans la pyramide des âges, on les retrouve de moins en moins. De même que si on faisait l'analyse plus poussée de savoir si les femmes sont représentées au sein des conseils de l'ordre ou au sein des associations de cabinets d'avocats et d'avocates, je pense à nouveau qu'on les retrouverait moins. Donc c'est pour ça qu'il n'est toujours pas vain, à l'heure actuelle, de se pencher sur la question de l'égalité effective des femmes et des hommes au barreau, puisque maintenant elles ont accès au barreau, ça ne pose évidemment absolument pas de problème, mais il faut véritablement se poser la question de l'accès et du maintien effectif des femmes au barreau, en se posant la question de savoir est-ce qu'elles ont les mêmes chances que les hommes pour faire une carrière complète. Et c'est ce à quoi réfléchissent les différentes commissions qui sont instituées au sein de nos différents ordres, donc au sein du barreau de Liège-Ouï et dorénavant au sein du barreau de Bruxelles. Je n'ai pas de détails spécifiques sur les autres ordres, mais je ne doute pas que si ce n'est pas encore fait, ça se fera dans la foulée. Et on constate principalement deux problèmes qui minent un petit peu la carrière des femmes au barreau. Le premier problème touche à la maternité, au congé de maternité, et on se rend compte que encore maintenant, il y a des verrous, que ce soit au niveau de l'engagement de femmes avocates qui n'ont pas encore d'enfants ou qui souhaitent avoir des enfants, ou alors en cas de retour après un congé de maternité au barreau. Ça pose encore énormément de problèmes. Il y a encore des licenciements qui se font soit à ce moment-là, soit dans les quelques mois qui suivent. Et ça, véritablement, c'est quelque chose dont il faut être conscient et qu'il faut combattre. Et la deuxième chose, c'est la question du harcèlement sur le lieu de travail, mais aussi plus généralement au barreau, au palais et dans tous les événements même qui peuvent se produire, qui peuvent être organisés par nos barreaux. Trop souvent, on a encore droit à des remarques désobligeantes, voire carrément sexistes, et qui, à mon sens, ne doivent plus faire l'objet on ne doit plus les laisser passer. Parce que tout ça, ça fait en sorte que ça mine la confiance des femmes, que ça donne aussi un caractère normal à quelque chose qui n'a absolument pas lieu d'être sur un lieu de travail. Et je pense que si on pouvait déjà travailler sur ces deux sujets-là, et à nouveau, je pense que c'est vraiment très important de travailler avec le concours des hommes, parce que à nouveau, trop souvent, on a cette réflexion-là de dire bah oui, mais vous restez finalement les femmes ensemble et vous travaillez sur ces sujets. Non, on a besoin vraiment du soutien des hommes. Donc c'est important aussi que les hommes fassent partie des commissions genre et diversité, peu importe comment on les appelle, parce que c'est vraiment un travail de réflexion qu'on doit mener main dans la main.
C'est d'ailleurs pourquoi il y a des hommes et des femmes au sein du comité de rédaction du Journal des Tribunaux. Et c'est pourquoi nous avons des auteurs masculins comme féminins dans ce numéro spécial. Ce numéro spécial dont je dois signaler à nos auditeurs qu'il va avoir une suite en ce sens que le journal des tribunaux s'associe à l'organisation par les deux ordres, l'ordre français, l'ordre néerlandais du barreau de Bruxelles, à un séminaire, une séance qui aura lieu le mercredi 11 mai à partir de 17h au Palais de justice. Vous trouverez tous les renseignements où vous les aurez reçus par les indications données par les deux ordres. Et cette conférence-débat nous permettra de développer le sujet avec des auteurs qualifiés et bien entendu de qualité. Voici ce qui conclut cet épisode du podcast du Journal des Tribunaux. Merci Isabelle pour ta présence et ta participation à cette émission. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Et je vous rappelle que le numéro du Journal des Tribunaux consacré à ce qui reste de cette lutte 100 ans après sera disponible ce 7 mai sur larcier.com.